Chapitre 53. Terrible serment de Corentin. En arrivant à sa maison de campagne, dans une des places les plus retirées et les plus riantes de la petite ville de Passy, rue des Vignes, Corentin, qui passait pour un négociant dévoré par la passion du jardinage, trouva les chiffres de son ami Peyrade. Au lieu de se reposer, il remonta dans le fiacre qu'il avait amené, se fit conduire rue des Moineaux et n'y trouva que quatre. Il apprit de la Flamande la disparition de Lydie et demeura surpris du défaut de prévoyance que Peyrade et lui avaient eu. « Ils ne me connaissent pas encore, se dit-il. Ces gens-là sont capables de tout. Il faut savoir s'ils tueront Peyrade, car alors je ne me montrerai plus. » Plus sa vie est infâme, plus l'homme y tient. Elle est alors une protestation, une vengeance de tous les instants. Corentin descendit, s'en alla chez lui se déguiser en petit vieillard souffreteux, à petite redingote verdâtre, à petite perruque en chien dent, et revint à pied, ramené par son amitié pour Peyrade. Il voulait donner des ordres à ses numéros les plus dévoués et les plus habiles. En longeant la rue Saint-Honoré pour venir de la place Vendôme à la rue Saint-Roch, il marcha derrière une fille en pantoufles et habillée comme l'est une femme pour la nuit. Cette fille, qui portait une camisole blanche et sur la tête un bonnet de nuit, laissait échapper de temps en temps des sanglots mêlés à des plaintes involontaires. Corentin la devança de quelques pas et reconnut Lydie. « Je suis l'ami de votre père, monsieur Canquel, » dit-il de sa voix naturelle. « Ah, voici donc quelqu'un à qui je puis me fier, » dit-elle. « N'ayez pas l'air de me connaître, » reprit Corentin, « car nous sommes poursuivis par de cruels ennemis et forcés de nous déguiser. Mais racontez-moi ce qui vous est arrivé. »« Oh, monsieur, » dit la pauvre fille, « cela se dit et ne se raconte pas. Je suis déshonorée, perdue, sans pouvoir m'expliquer comment. » »« D'où venez-vous ? » ?»« Je ne sais pas, monsieur. Je me suis sauvée avec tant de précipitation, j'ai fait tant de rues, tant de détours, en me croyant suivie. Et quand je rencontrais quelqu'un d'honnête, je demandais le chemin pour aller sur les boulevards afin de gagner la rue de la Paix. Enfin, après avoir marché pendant... Quelle heure est-il ?
11h30, dit Corentin.
Je me suis sauvé à la tombée de la nuit. Voilà donc 5 heures que je marche, s'écria Lydie. Allons, vous allez vous reposer, vous trouverez votre bonne catte. Oh, monsieur, il n'y a plus de repos pour moi. « Je ne veux pas d'autre repos que celui de la tombe, et j'irai l'attendre dans un couvent si l'on me juge digne d'y entrer. »«
Pauvre petite, vous avez bien résisté ?»«
Oui, monsieur. Ah, oh, si vous saviez au milieu de quelles créatures abjectes on m'a mise !»«
On vous a sans doute endormie ?»«
Ah, c'est cela ?» dit la pauvre Lydie. « Encore un peu de force et j'atteindrai la maison. » Je me sens défaillir et mes idées ne sont pas très nettes. Tout à l'heure, je me croyais dans un jardin. »
Corentin porta Lydie dans ses bras où elle perdit connaissance et il la monta par les escaliers.
« Cat ! » cria-t-il.
Cat parut et jeta des cris de joie.
« Ne vous hâtez pas de vous réjouir, » dit sentencieusement Corentin. « Cette jeune fille est bien malade. »
Quand Lydie eut été posée sur son lit, lorsqu'à la lueur de 2 bougies allumées par 4, elle reconnut sa chambre, elle eut le délire. Elle chanta des ritournelles d'air gracieux et, tour à tour, vociféra certaines phrases horribles qu'elle avait entendues. Sa belle figure était marbrée de teintes violettes. Elle mêlait les souvenirs de sa vie si pure à ceux de ses 10 jours d'infamie. 4 pleurait. Corentin se promenait dans la chambre en s'arrêtant par moments pour examiner Lydie.
« Elle paie pour son père, dit-il. Y aurait-il une providence ?»« Oh, ai-je eu raison de ne pas avoir de famille ? Un enfant, c'est ma parole d'honneur, comme le dit je ne sais quel philosophe, un otage qu'on donne au malheur. »« Oh !» dit la pauvre enfant en se mettant sur son séant et laissant ses beaux cheveux dérouler. « Au lieu d'être couchée ici, Kat, je devrais être couchée sur le sable au fond de la Seine. »
Kat, au lieu de pleurer et de regarder votre enfant, ce qui ne la guérira pas, vous devriez aller chercher un médecin, celui de la mairie d'abord, puis messieurs Desplein et Bianchon. Il faut sauver cette innocente créature. » et Corentin écrivit les adresses des deux célèbres docteurs. En ce moment, l'escalier fut grimpé par un homme à qui les marches en étaient familières. La porte s'ouvrit, Peyrade en sueur, la figure violacée, les yeux presque ensanglantés, soufflant comme un dauphin, bondit de la porte de l'appartement à la chambre de Lydie en criant « Où est ma fille ?» Il vit un triste geste de Corentin, le regard de Peyrade suivit le geste. On ne peut comparer l'état de Lydie qu'à celui d'une fleur amoureusement cultivée par un botaniste, tombée de sa tige, écrasée par les souliers ferrés d'un paysan. Transportez cette image dans le cœur même de la paternité, vous comprendrez le coup que reçut Peyrade, à qui de grosses larmes vinrent aux yeux.
« On pleure, c'est mon père !» dit l'enfant.
Lydie put encore reconnaître son père. Elle se souleva, vint se mettre aux genoux du vieillard au moment où il tomba sur un fauteuil.
« Pardon, papa !»
dit-elle d'une voix qui perça le cœur de Peyrade au moment où il sentit comme un coup de massue appliqué sur son crâne.
« Je meurs ! Ah, les gredins !»
fut son dernier mot. Corentin voulut secourir son ami, il en reçut le dernier soupir. « Mort empoisonné !» se dit Corentin. « Bon, voici le médecin !» s'écria-t-il en entendant le bruit d'une voiture. Cotenson, qui se trouva débarbouillé de sa mulâtrerie, resta comme changé en statue de bronze en entendant dire à Lydie
« Tu ne me pardonnes donc pas, mon père, ce n'est pas ma faute !»
Elle ne s'apercevait pas que son père était mort.
« Oh, quels yeux il me fait !» dit la pauvre folle.
« Il faut les lui fermer, » dit Contenson, qui plaça feu Peyrade sur le lit. « Nous faisons une sottise, » dit Corentin. « Emportons-le chez lui. Sa fille est à moitié folle, elle le deviendrait tout à fait en s'apercevant de sa mort. Elle croirait l'avoir tué. » En voyant emporter son père, Lydie resta comme hébétée. « Voilà mon seul ami, » dit Corentin en paraissant ému, quand Peyrade fut exposé sur son lit dans sa chambre. Il n'a eu dans toute sa vie qu'une seule pensée cupide, et ce fut pour sa fille. Que cela te serve de leçon, Contenson. Chaque état a son honneur. Peyrade a eu tort de se mêler des affaires particulières, nous n'avons qu'à nous occuper des affaires publiques. Mais, quoi qu'il puisse arriver, je jure, dit-il avec un accent, un regard et un geste qui frappèrent Contenson d'épouvante, de venger mon pauvre Peyrade. Je découvrirai les auteurs de sa mort et ceux de la honte de sa fille. Et par mon propre égoïsme, par le peu de jours qui me restent et que je risque dans cette vengeance, tous ces gens-là finiront leur jour à 4 heures, en pleine santé, rasés, nets, en place de grève. « Et je vous y aiderai, » dit Contenson ému. Rien n'est en effet plus émouvant que le spectacle de la passion chez un homme froid, compassé, méthodique, en qui, depuis 20 ans, personne n'avait aperçu le moindre mouvement de sensibilité. C'est la barre de fer en fusion qui fond tout ce qu'elle rencontre. Aussi, Contenson eut-il une révolution d'entrailles. « Pauvre père Canquoile, reprit-il en regardant Corentin, il m'a souvent régalé. Et tenez, il n'y a que des gens vicieux qui savent faire de ces choses-là. Souvent, il m'a donné 10 francs pour aller au jeu. » Après cette oraison funèbre, les deux vengeurs de Peyrade allèrent chez Lydie en entendant Kat et le médecin de la mairie dans les escaliers. « Va chez le commissaire de police, » dit Corentin. « Le procureur du roi ne trouverait pas en ceci les éléments d'une poursuite. Mais nous allons faire un rapport à la préfecture, ça pourra servir peut-être à quelque chose. »« Monsieur, » dit Corentin au médecin de la mairie, « vous allez trouver dans cette chambre un homme mort. » « Je ne crois pas sa mort naturelle, vous ferez l'autopsie en présence de monsieur le commissaire de police qui, sur mon invitation, va venir. Tâchez de découvrir les traces du poison. Vous serez d'ailleurs assisté dans quelques instants de messieurs Desplein et Bianchon que j'ai mandé pour examiner la fille de mon meilleur ami dont l'état est pire que celui du père, quoi qu'il soit mort. « Je n'ai pas besoin, dit le médecin de la mairie, de ces messieurs pour faire mon métier. »
« Ah bon !» pensa Corentin.
« Ne nous heurtons pas, monsieur, » reprit Corentin. « En 2 mots, voici mon opinion. Ceux qui viennent de tuer le père ont aussi déshonoré la fille. » Au jour, Lydie avait fini par succomber à sa fatigue. Elle dormait quand l'illustre chirurgien et le jeune médecin arrivèrent. Le médecin, chargé de constater les décès, avait alors ouvert Peyrade et cherché les causes de la mort. En attendant que l'on éveille la malade, dit Corentin aux deux célèbres docteurs, voudriez-vous aider un de vos confrères dans une constatation qui certainement aura de l'intérêt pour vous et votre avis ne sera pas de trop au procès-verbal. Votre parent est mort d'apoplexie, dit le médecin. Il y a les preuves d'une congestion cérébrale effrayante. Examinez, messieurs, dit Corentin, et cherchez s'il n'y a pas dans la toxicologie des poisons qui produisent le même effet. L'estomac, dit le médecin, était absolument plein de matière, mais à moins de les analyser avec des appareils chimiques, je ne vois aucune trace de poison. Si les caractères de la congestion cérébrale sont bien reconnus, il y a là, vu l'âge du sujet, une cause suffisante de mort, dit Desplein en montrant l'énorme quantité d'aliments. Est-ce ici qu'il a mangé ? Demanda Bianchon. Non, dit Corentin, il est venu du boulevard ici rapidement et il a trouvé sa fille violée. Voilà le vrai poison s'il aimait sa fille, dit Bianchon. Quel serait le poison qui pourrait produire cet effet-là ? Demanda Corentin sans abandonner son idée. Il n'y en a qu'un, dit Desplein après avoir examiné tout avec soin. C'est un poison de l'archipel de Java, pris à des arbustes assez peu connus encore, de la nature des strychnos, et qui servent à empoisonner ces armes si dangereuses, les chrismalées. On le dit du moins. Le commissaire de police arriva. Corentin lui fit part de ses soupçons, le pria de rédiger un rapport en lui disant dans quelle maison et avec quels gens Peyrade avait soupé. Puis il instruisit du complot formé contre les jours de Peyrade et des causes de l'état où se trouvait Lydie. Après, Corentin passa dans l'appartement de la pauvre fille où Desplein et Bianchon examinaient la malade. Mais il les rencontra sur le pas de la porte. « Eh bien, messieurs, demanda Corentin, placez cette fille-là dans une maison de santé. Si elle ne recouvre pas la raison en accouchant, si toutefois elle devient grosse, elle finira ses jours folle mélancolique. Il n'y a pas pour la guérison d'autres ressources que dans le sentiment maternel s'il se réveille. » Corentin donna 40 francs en or à chaque docteur et se tourna vers le commissaire de police qui le tirait par la manche. « Le médecin prétend que la mort est naturelle, dit le fonctionnaire, et je puis d'autant moins faire un rapport qu'il s'agit du père Canquel. Il se mêlait de bien des affaires et nous ne saurions pas trop à qui nous nous attaquerions. Ces gens-là meurent souvent par ordre. « Je me nomme Corentin, dit Corentin à l'oreille du commissaire de police. » Le commissaire laissa échapper un mouvement de surprise. « Donc, faites une note, reprit Corentin. Elle sera très utile plus tard et ne l'envoyez qu'à titre de renseignement confidentiel. Le crime est improuvable et je sais que l'instruction serait arrêtée au premier pas. Mais je livrerai quelques jours les coupables, je vais les surveiller et les prendre en flagrant délit. » Le commissaire de police salua Corentin et partit. « Monsieur, dit Kat, mademoiselle ne fait que chanter et danser. Que faire ?»« Mais il est donc survenu quelque chose. Elle a su que son père venait de mourir. Mettez-la dans un fiacre et conduisez-la tout bonnement à Charenton. Je vais écrire un mot au directeur général de la police du royaume afin qu'elle y soit placée convenablement. » »« La fille à Charenton, le père dans la fosse commune, dit Corentin. Contenson va commander le char des pauvres. Maintenant, à nous deux, dont Carlos Herrera. » Carlos, dit Contenson, il est en Espagne. Il est à Paris, dit péremptoirement Corentin. Il y a là du génie espagnol du temps de Philippe II, mais j'ai des traquenards pour tout le monde, même pour les rois.